Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 24e épisode.
Le féminisme, dont nous allons parler aujourd'hui, n'a pas forcément bonne réputation. Beaucoup de femmes s'en défendent, comme d'une ride à leur visage. « Je ne suis pas féministe, mais », disent certaines, conscientes malgré tout de ce qu'elles doivent à ce mouvement. À ces mouvements, devrais-je dire, tant le féminisme est pluriel et varié. Il n'y a pas un féminisme, mais des féminismes. Longtemps parents pauvres de l'historiographie et même de la mémoire, parce qu'il laisse peu de traces, le féminisme a bénéficié depuis 30 ans de nombreuses recherches, notamment œuvres de jeunes historiens et historiennes, qui ont fait revivre les pionnières, retracer ces épisodes et montrer ces enjeux. On dispose même aujourd'hui d'ouvrages de synthèse, comme l'Encyclopédie historique et politique des femmes de Christine Fauré, ou Le siècle des féminismes, paru en 2004 à l'atelier. Alors d'abord les mots. D'où vient le mot féminisme? Sa paternité est incertaine. On l'a d'abord attribué à Pierre Leroux, un homme du 19e siècle qui a inventé par ailleurs le mot de socialisme. Mais ça semble discutable. Il a peut-être employé une fois comme ça, mais c'est tout. Plus sûrement, on l'attribue à Alexandre Dumas, fils, en 1872. Et alors, écoutez bien, selon lui, le féminisme était la maladie des hommes efféminés. Les hommes suffisamment faibles pour prendre le parti des femmes adultères au lieu de venger leur honneur. Vous voyez l'origine de ce mot féminisme. Mais quelques années plus tard, dans les années 1880, Hubertine Auclair, c'est notre suffragiste française, elle avait des grands chapeaux à plumes, des grandes robes, et en même temps, elle était très hardie, eh bien, elle se déclare fièrement féministe. Et on peut dire que 20 ans plus tard, à la fin du siècle, féminisme, féministe, ces vocables se répandent, et ils ont même beaucoup de succès. Tout le monde, du coup, les emploie. Sans toutefois remplacer complètement des expressions comme « la cause des femmes » ou « women's movement ». Les anglo-saxons, pendant longtemps, ne vont pas employer « féminisme » alors qu'ils l'emploient maintenant, mais ils aiment bien également « women's movement ». Voilà pour les mots. Alors maintenant, les choses. Au sens très large, féminisme, féministe, cela désigne celles et ceux, parce qu'il y a des hommes féministes, bien entendu, qui se prononcent et qui luttent pour l'égalité des sexes. Ça peut être des personnes isolées. Par exemple, Christine de Pizan, à la fin du 15e, écrit « La cité des dames », qui est un livre magnifique, où elle réclame l'égalité pour les femmes, notamment dans le domaine du savoir. Nous dirons, nous, qu'elle était féministe, mais elle, évidemment, elle ne le disait pas, le mot n'existait pas. Plus largement, on appelle féminisme, féministe, les doctrines et les mouvements beaucoup plus collectifs qui apparaissent à partir de la fin du XVIIIe siècle. Il y a trois textes à peu près simultanés qui sont comme une espèce de naissance parce que ils sont des textes fondateurs. 1790, Condorcet, de l'admission des femmes au droit de cité. Vous voyez, il y a un homme là. 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. 1792, The Vindications of the Rights of Women de Mary Wollstonecraft, l'anglaise Mary Wollstonecraft. Alors c'est un tournant, c'est un avènement. Et on peut dire que insinué en quelque sorte dans la brèche du mouvement des Lumières, mais surtout de la Révolution française, le féminisme s'infiltre comme un espèce de processus éruptif classique qui se reproduira d'ailleurs maintes fois. Comme si les femmes avaient des revendications latentes, cachées en quelque sorte, qui n'attendaient qu'une faille pour jaillir. En somme, on pourrait dire en plaisantant que l'équilibre des sexes vit sur un volcan. Le féminisme agit par poussée, par vague, comme on dit quelquefois. C'est un mouvement intermittent, syncopé, mais résurgent. Pourquoi est-il comme ça? Parce qu'il ne s'appuie pas sur des organisations stables capables de le capitaliser. Le féminisme n'est pas un parti, il ne l'a jamais été. Il est un mouvement, des séries de mouvements qui recommencent, disparaissent, recommencent à nouveau. Il s'appuie sur des personnalités, des personnes, des regroupements en général éphémères. Par exemple, les femmes de 1848 disaient qu'elles se réunissaient, et je les cite, « chez celles qui ont assez de chaises pour qu'on puisse s'asseoir ». Vous voyez, il n'y avait pas vraiment des lieux bien pourvus. Ce sont donc des regroupements et des associations fragiles. Il faudra attendre le XXe siècle pour que ces associations prennent un petit peu plus de consistance. Je n'en donnerai qu'un exemple. À Washington, en 1888, est fondé le Conseil international des femmes, qui veut réunir toutes les femmes du monde dans leurs revendications. Il essaime un peu partout, si bien qu'en 1914, il y a 28 conseils nationaux et le Conseil national des femmes françaises, dans cette mouvance, a été fondé en 1902. Il n'est pas étonnant d'ailleurs que les protestantes aient joué un grand rôle dans la fondation de ce CNFF. Ce Conseil international des femmes organise des congrès internationaux qui initient les femmes à la parole publique et aux relations internationales. Henry James en a parlé, on s'en moque un petit peu, il faut bien dire, dans les Bostoniennes. Pour citer un autre exemple d'association, on pourrait parler du planning familial, qui a été véritablement la matrice du MLF, c'est-à-dire du Mouvement de Libération des Femmes, qui lui a été fondé en 1970. Je ne donne que des exemples, bien entendu. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'associations féministes depuis la fin du XVIIIe et surtout depuis le milieu du XIXe siècle. Alors ce féminisme mène des actions variées. D'abord par l'écrit, des pétitions. Les femmes avaient le droit de pétitionner, des manifestes. Le fameux manifeste pour le droit à l'avortement du Nouvel Observateur qu'on a appelé le manifeste des 363 salopes. C'était un journal qu'ils avaient baptisé comme ça, mais elles l'avaient repris à leur compte, en quelque sorte. Le féminisme se manifeste également par des livres et surtout par des journaux, dont j'ai eu l'occasion déjà de parler. Il y a presque toujours des créations de journaux au moment des révolutions, en 1830, en 1848, au moment de la Commune, etc., etc. Et pas seulement en France, j'ai cité des titres français, mais Louise Otto, à Leipzig en 1848, fonde la Frauenzeitung, dont la devise est « Je recrute des citoyennes pour le royaume de la liberté ». En 1868, Anna Maria Mozzoni, l'italienne, fonde la Donna, qui se veut très cosmopolite. Et puis, à la même époque, il y a à Athènes un journal des dames. Vous voyez, à peu près aux mêmes époques, il y a des journaux un petit peu partout. Et puis, en France, à nouveau, je voudrais citer la très célèbre Fronde de Marguerite Durand. C'est un journal qui est administré, écrit et même composé sur le plan typographique uniquement par des femmes, avec de grandes signatures, Colette y a écrit quelquefois, et des journalistes professionnels, comme Séverine, qui est une journaliste célèbre, très indépendante, et qui en même temps voulait avoir un rôle national. Elle a couvert le procès Dreyfus à Rennes, à la fin du XIXe siècle. Voilà des actions type du féminisme. Le féminisme agit par des meetings. En voilà un très célèbre à Londres, en 1888, les femmes se réunissent à Hyde Park, qui était un lieu de réunion classique, avec le terme de « purity ». Et c'était pour protester contre la prostitution. Le féminisme agit par des manifestations de rue. Les suffragettes anglaises au début du XXe siècle, les suffragistes françaises entre les deux guerres, le MLF à Paris dans les années 1971-1975, et partout dans le monde. Je donne des exemples, mais c'est partout dans le monde. Est-ce que ces manifestations de femmes furent violentes? Très rarement. Hubertine Auclert, avec son grand chapeau dont j'ai parlé, intervient dans les mairies pour protester, au moment des mariages, contre les articles du Code civil qui exigent alors des femmes qu'elles promettent obéissance à leur mari. Naturellement, ça n'a pas duré longtemps parce que on l'en a empêché et que toutes les mairies ont dit « attention, cette femme, elle est dangereuse ». Vous voyez, la violence était quand même limitée. Entre les deux guerres, à la suite de Louise Weiss, qui est une avocate féministe très militante, les manifestantes s'enchaînent aux grilles du Sénat au Palais du Luxembourg en disant « les femmes veulent voter ». Au début du XXe siècle, des suffragettes anglaises jettent une bombe, pas bien dangereuse parce que les dégâts n'ont pas été énormes. Enfin, ça a quand même fait grand bruit, si j'ose dire. Elles ont été emprisonnées, à la suite de quoi elles ont fait en prison une grève de la faim, qui est la première grève de la faim qu'on connaît probablement dans l'histoire. Et il y a une suffragette anglaise, au début du XXe siècle, qui se jette à la tête du cheval du roi au derby d'Epsom. Ben, c'est elle qui est tuée. Elle devient la martyre du suffragisme à travers le monde. Voilà la violence des féministes. On peut pas dire que c'est considérable. Elles n'étaient pas des terroristes, ces féministes. En général, au contraire, elles usent plutôt de la fête ou de la dérision. Elles aiment beaucoup les caricatures. Elles chantent, elles manient le ballet, elles font des banderoles avec des caricatures. Mais voilà. La seule présence de femmes dans la rue, surtout il y a un siècle évidemment, ça suffisait pour les rendre en quelque sorte dangereuses. Elles manifestaient toutes seules pour leur propre compte, pour leur propre cause. Alors c'était ressenti comme une violence. C'est une violence symbolique si vous voulez. Le féminisme agit par des personnes évidemment, par des personnalités, des militantes plus ou moins connues, et on peut dire que toutes mériteraient un dictionnaire. D'ailleurs, il y a plus ou moins des projets de faire un dictionnaire féministe pour ces femmes. Il y en a de partiels, d'ailleurs. Au début, ce sont des isolées, des femmes émancipées de la bourgeoisie, de l'aristocratie, des femmes qui ont une certaine liberté et qui l'utilisent pour lutter pour les femmes. Flora Tristan, George Sand, Madame de Staël encore un peu avant elle, qui n'aurait certainement pas accepté le titre de féministe. C'est nous qui disons qu'elle est féministe. Mais elle se bat véritablement pour l'égalité des sexes. Et puis, on voit Madame de Staël. Madame de Staël, c'est nous qui la baptisons féministe. Le mot n'existait pas, mais elle se battait pour l'égalité des sexes. Et puis, après ces isolées, le recrutement du féminisme s'élargit à des catégories sociales. D'abord aux ouvrières. Le rôle des couturières, dont j'ai parlé à propos du travail des femmes, est très important, en 1848 notamment. Et puis, en 1848, il y a rupture entre le mouvement ouvrier et les féministes. Désormais, le mouvement ouvrier dit du féminisme qu'il est bourgeois. Alors, les ouvrières vont plus trop oser manifester uniquement pour les droits des femmes. Et désormais, ce sont plutôt les couches moyennes qui vont être le support du féminisme. Des intellectuelles, institutrices, avocates, Maria Vérone, Louise Weiss, beaucoup plus près de nous, Gisèle Halimi, naturellement. Et puis des femmes médecins, comme Madeleine Pelletier, des journalistes, des professeurs, des femmes écrivains. Voilà, à peu près le support du féminisme du XXe siècle. La force du mouvement de libération des femmes des années 1970-1980 en France a résidé dans le fait qu'il a rencontré un soutien populaire important. Et c'est là, c'est ce qui lui a donné un véritable élargissement. Pourquoi ? Parce qu'il a donné voix à la revendication massive des femmes pour le droit à la contraception et à l'avortement. Le féminisme agit également par ses alliances très diverses, avec le socialisme, avec le protestantisme, avec la libre pensée, avec le christianisme également, avec le catholicisme, etc., etc. Il essaie toujours de trouver des alliés, et il a évidemment des alliés plutôt du côté de la libre pensée en général. Le féminisme agit comme une houle et par vagues. Au XIXe siècle, il lutterait plutôt pour l'égalité des sexes. Au XXe siècle aussi, mais en revendiquant l'égalité dans la différence. Ces grandes revendications, nous les avons rencontrées à chaque chapitre de ce récit. Le droit au savoir, le droit au travail, au salaire, à l'accès aux métiers et aux professions, les droits civils, très importants, les droits politiques, les droits du corps, la liberté de contraception, d'avortement, garantie en France par la loi Veil de 1975, un enfant si je veux, quand je veux, comme je veux, ça c'est un véritable habeas corpus pour les femmes et c'est le bouleversement majeur. Enfin, au travers de ce mouvement, à l'aide de livres majeurs, se dessine une pensée féministe, volontiers critique, d'un universel qui est souvent plus virtuel que réel. Le féminisme, bien entendu, suscite un anti-féminisme plus ou moins virulent, qui va de la caricature misogyne à la critique politique très radicale. Il n'est pas facile de mesurer les effets du féminisme. Dans le jeu d'interaction qui tisse la société, on peut cependant le créditer d'un rôle considérable, je crois, dans la modernisation des rapports entre les sexes qui marquent l'histoire contemporaine. Il a constitué les femmes en actrices sur la scène publique. Il a donné forme à leurs aspirations, voix à leurs désirs. Simone de Beauvoir disait « Toute l'histoire des femmes a été faite par les hommes. Le féminisme n'a jamais été un mouvement autonome. » Eh bien, on peut, sur ce point, penser autrement.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.